Jules Verne, Une ville flottante. Chapitre 2. Le pont n'était encore qu'un immense chantier livré à une armée de travailleurs. Je ne pouvais me croire à bord d'un navire. Plusieurs milliers d'hommes, ouvriers, gens de l'équipage, mécaniciens, officiers, manœuvres, curieux, se croisaient, se coudoyaient sans se gêner, les uns sur le pont, les autres dans les machines, ceux-ci courant les roufles, cela éparpillé à travers la mâture, tous dans un pêle-mêle qui échappe à la description. Ici, des grues volantes enlevaient d'énormes pièces de fonte. Là, de lourds madriers étaient hissés à l'aide de treuils à vapeur. Au-dessus de la chambre des machines se balançait un cylindre de fer, véritable tronc de métal. À l'avant, les vergues montaient en gémissant le long des mâts de hune. À l'arrière se dressait un échafaudage qui cachait sans doute quelque édifice en construction. On bâtissait, on ajustait, on charpentait, on gréait, on peignait au milieu d'un incomparable désordre. Mes bagages avaient été transbordés. Je demandai le capitaine Anderson. Le commandant n'était pas encore arrivé, mais un des stewards se chargea de mon installation et fit transporter mes colis dans une des cabines de l'arrière. « Mon ami, lui dis-je, le départ du Great Eastern était annoncé pour le 20 mars, mais il est impossible que tous ces préparatifs soient terminés en 24 heures. Savez-vous à quelle époque nous pourrons quitter Liverpool ?» À cet égard, le steward n'était pas plus avancé que moi. Il me laissa seul. Je résolus alors de visiter tous les trous de cette immense fourmilière, et je commençai ma promenade comme eût fait un touriste dans quelque ville inconnue. Une boue noire, cette boue britannique qui se colle au pavé des villes anglaises, couvrait le pont du steamship. Des ruisseaux fétides serpentaient çà et là. On se serait cru dans un des plus mauvais passages de Upper Street, aux abords du pont de Londres. Je marchais en rasant ces roufles qui s'allongeaient sur l'arrière du navire. Entre eux et les bastingages, de chaque côté, se dessinaient deux larges rues, ou plutôt deux boulevards, qu'une foule compacte encombrait. J'arrivais ainsi au centre même du bâtiment, entre les tambours réunis par un double système de passerelles. Là s'ouvrait le gouffre destiné à contenir les organes de la machine à roues. J'aperçus alors cet admirable engin de locomotion. Une cinquantaine d'ouvriers étaient répartis sur les claires-voies métalliques du bâti de fonte, les uns accrochés aux longs pistons inclinés sous des angles divers, les autres suspendus aux bielles. Ceux-ci ajustant l'excentrique, ceux-là boulonnant, au moyen d'énormes clés, les coussinets des tourillons. Ce tronc de métal, qui descendait lentement par l'écoutille, c'était un nouvel arbre de couche destiné à transmettre aux roues le mouvement des bielles. De cet abîme sortait un bruit continu, fait de sons aigres et discordants. Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur ces travaux d'ajustage, je repris ma promenade et j'arrivai sur l'avant. Là, des tapissiers achevaient de décorer un assez vaste roufle, désigné sous le nom de « smoking room », la chambre à fumer. Le véritable estaminet de la ville flottante, magnifique café, éclairé par 14 fenêtres, plafonné blanc et or, et lambrissé de panneaux en citronnier. Puis, après avoir traversé une sorte de petite place triangulaire que formait l'avant du pont, j'atteignis l'étrave qui tombait d'aplomb à la surface des eaux. De ce point extrême, me retournant, j'aperçus dans une déchirure des brumes l'arrière du Great Eastern, à une distance de plus de 2 hectomètres. Ce colosse mérite bien qu'on emploie de tels multiples pour en évaluer les dimensions. Je revins en suivant le boulevard de Tribord, passant entre les roufles et les pavois, évitant le choc des poulies qui se balançaient dans les airs et le coup de fouet des manœuvres que la brise cinglait çà et là, me dégageant ici des heurts d'une grue volante et plus loin des scories enflammées qu'une forge lançait comme un bouquet d'artifice. J'apercevais à peine le sommet des mâts, haut de 200 pieds, qui se perdaient dans les brouillards, auxquels les tenders de service et les charbonniers mêlaient leur fumée noire. Après avoir dépassé la grande écoutille de la machine à roues, je remarquai un petit hôtel qui s'élevait sur ma gauche, puis la longue façade latérale d'un palais surmonté d'une terrasse dont on fourbissait les garde-fous. Enfin, j'atteignis l'arrière du steamship, à l'endroit où s'élevait l'échafaudage que j'ai déjà signalé. Là, entre le dernier roufle et le vaste caillebotis, au-dessus duquel se dressaient les quatre roues du gouvernail, des mécaniciens achevaient d'installer une machine à vapeur. Cette machine se composait de deux cylindres horizontaux et présentait un système de pignons, de leviers, de déclics qui me sembla très compliqué. Je n'en compris pas d'abord la destination, mais il me parut qu'ici, comme partout, les préparatifs étaient loin d'être terminés. Et maintenant, pourquoi ces retards? Pourquoi tant d'aménagements nouveaux à bord du Great Eastern, navire relativement neuf? C'est ce qu'il faut dire en quelques mots. Après une vingtaine de traversées entre l'Angleterre et l'Amérique, et dont l'une fut marquée par des accidents très graves, l'exploitation du Great Eastern avait été momentanément abandonnée. Cet immense bateau, disposé pour le transport des voyageurs, ne semblait plus bon à rien et se voyait mis au rebut par la race défiante des passagers d'outre-mer. Lorsque les premières tentatives pour poser le câble sur son plateau télégraphique eurent échoué, un succès dû en partie à l'insuffisance des navires qui le transportaient, les ingénieurs songèrent au Great Eastern. Lui seul pouvait emmagasiner à son bord ses 3400 km de fil métallique pesant 4500 tonnes. Lui seul pouvait, grâce à sa parfaite indifférence à la mer, dérouler et immerger cet immense grelin. Mais pour arrimer ce câble dans les flancs du navire, il fallut des aménagements particuliers. On fit sauter deux chaudières sur six et une cheminée sur trois appartenant à la machine de l'hélice. À leur place, de vastes récipients furent disposés pour y lever le câble qu'une nappe d'eau préservait des altérations de l'air. Le fil passait ainsi de ces lacs flottants à la mer sans subir le contact des couches atmosphériques. L'opération de la pose du câble s'accomplit avec succès et, le résultat obtenu, le Great Eastern fut relégué de nouveau dans son coûteux abandon. Survint alors l'exposition universelle de 1867. Une compagnie française, dite Société des affréteurs du Great Eastern, à responsabilité limitée, se fonda au capital de 2 millions de francs, dans l'intention d'employer le vaste navire au transport des visiteurs transocéaniens. De là, nécessité de réapproprier le steamship à cette destination, nécessité de combler les récipients et de rétablir les chaudières, nécessité d'agrandir les salons que devaient habiter plusieurs milliers de voyageurs et de construire ces roufles, contenant des salles à manger supplémentaires, enfin, aménagement de 3000 lits dans les flancs de la gigantesque coque. Le Great Eastern fut affrété au prix de 25 000 francs par mois. Deux contrats furent passés avec G. Forrester et Compagnie de Liverpool, le premier au prix de 538 750 francs pour l'établissement des nouvelles chaudières de l'hélice. Le second, au prix de 662 500 francs pour réparation générale et installation du navire. Avant d'entreprendre ces derniers travaux, le Board of Trade exigea que le navire fût passé sur le grill afin que sa coque pût être rigoureusement visitée. Cette coûteuse opération faite, une longue déchirure du bordé extérieur fut soigneusement réparée à grands frais. On procéda alors à l'installation des nouvelles chaudières. On dut changer aussi l'arbre moteur des routes qui avait été faussé pendant le dernier voyage. Cet arbre, coudé en son milieu pour recevoir la bielle des pompes, fut remplacé par un arbre muni de deux excentriques, ce qui assurait la solidité de cette pièce importante sur laquelle porte tout l'effort. Enfin, et pour la première fois, le gouvernail allait être mu par la vapeur. C'est à cette délicate manœuvre que les mécaniciens destinaient la machine qu'ils ajustaient à l'arrière. Le timonier, placé sur la passerelle du centre, entre les appareils à signaux des roues et de l'hélice, avait sous les yeux un cadran pourvu d'une aiguille mobile qui lui donnait à chaque instant la position de sa barre. Pour la modifier, il se contentait d'imprimer un léger mouvement à une petite roue, mesurant à peine un pied de diamètre, et dressée verticalement à portée de sa main. Aussitôt, des valves s'ouvraient. La vapeur des cylindres se précipitait par de longs tuyaux de conduite dans les deux cylindres de la petite machine. Les pistons se mouvaient avec rapidité, les transmissions agissaient, et le gouvernail obéissait instantanément à ses drosses irrésistiblement entraînées. Si ce système réussissait, un homme gouvernerait, d'un seul doigt, la masse colossale du Gloatistern. Pendant 5 jours, les travaux continuèrent avec une activité dévorante. Ces retards nuisaient considérablement à l'entreprise des affréteurs, mais les entrepreneurs ne pouvaient faire plus. Le départ fut irrévocablement fixé au 26 mars. Le 25, le pont du steamship était encore encombré de tout l'outillage supplémentaire. Enfin, pendant cette dernière journée, les pavasans, les passerelles, les roufles se dégagèrent peu à peu. Les échafaudages furent démontés, les grues disparurent. L'ajustement des machines s'acheva. Les dernières chevilles furent frappées et les derniers écrous vissés. Les pièces polies se couvrirent d'un enduit blanc qui devait les préserver de l'oxydation pendant le voyage. Les réservoirs d'huile se remplirent. La dernière plaque reposa enfin sur sa mortaise de métal. Ce jour-là, l'ingénieur en chef fit l'essai des chaudières. Une énorme quantité de vapeur se précipita dans la chambre des machines. Penché sur l'écoutille, enveloppé dans ces chaudes émanations, je ne voyais plus rien. Mais j'entendais les longs pistons gémir à travers leurs boîtes à étoupe, et les gros cylindres osciller avec bruit sur leurs solides tourillons. Un vif bouillonnement se produisait sous les tambours, pendant que les pales frappaient lentement les eaux brumeuses de la Mersey. À l'arrière, l'hélice battait les flots de sa quadruple branche. Les deux machines, entièrement indépendantes l'une de l'autre, étaient prêtes à fonctionner. Vers 5 heures du soir, une chaloupe à vapeur vint accoster. Elle était destinée au Great Eastern. Sa locomotive fut détachée d'abord et hissée sur le pont au moyen des cabestans. Mais quant à la chaloupe elle-même, elle ne put être embarquée. Sa coque d'acier était d'un poids tel que les pistolets, sur lesquels on avait frappé les palans, plièrent sous la charge. Effet qui ne se fût pas produit sans doute si on les eût soutenus au moyen de balancines. Il fallut donc abandonner cette chaloupe, mais il restait encore au Great Eastern un chapelet de 16 embarcations accrochées à ses porte-manteaux. Ce soir-là, tout fut à peu près terminé. Les boulevards nettoyés n'offraient plus de traces de boue. L'armée des balayeurs avait passé par là. Le chargement était entièrement achevé. Vivres, marchandises, charbon occupaient les cambuses, la cale et les soutes. Cependant, le steamer ne se trouvait pas encore dans ses lignes d'eau et ne tirait pas les 9 mètres réglementaires. C'était un inconvénient, polir ses roues, dont les aubes, insuffisamment immergées, devaient nécessairement produire une poussée moindre. Néanmoins, dans ces conditions, on pouvait partir. Je me couchai donc avec l'espoir de prendre la mer le lendemain. Je ne me trompais pas. Le 26 mars, au point du jour, je vis flotter au mât de misaine le pavillon américain, au grand mât le pavillon français, et à la corne d'Artimon, le pavillon d'Angleterre.